7h18, salut Pierre-Yves.
Bonjour.
La Banque du Canada qui n'haussera pas son taux directeur, mais ça retardera pas, là. Ça va arriver un jour ou l'autre.
Stephen Pollard dit, ben, c'est un petit détour, mais on va rester dans le voyage. Donc, il nous a dit dans les derniers mois, je veux augmenter le taux directeur, préparez-vous, ça s'en vient. Puis là, il dit, écoutez, on le fera pas tout de suite, il y a une autre réunion au 6 mars, puis... Attendez-vous quand même que d'ici la fin 2019, on atteigne 2,25 dans le taux directeur, quand on a bien su que un taux d'équilibre, donc de non-intervention, c'est entre 2,5 et 3,5. Donc, pourquoi je vous en parle si souvent? C'est parce que c'est majeur. On n'a jamais été aussi endetté comme collectivité et un petit montant d'augmentation devient significatif. Tu sais, par exemple, les augmentations, les dernières, se font par saut de 25 points de base, donc 0,25% de taux directeur. Mais si vous avez un prêt d'une maison de 300 000 $ ben un saut de ça devient à peu près 750 $ Donc, si on fait le saut de 50 points de base d'ici la fin 2019, ça veut dire que si vous avez un prêt hypothécaire de plus de 300 000 $ vous allez payer plus de 1500 $ de plus en intérêt pour une année. Donc, si on se rend éventuellement à plus que ça, ça va augmenter de plus en plus. Donc, c'est ton voyage dans le sud de coupe annuelle qui y passe. T'sais, en somme, pour une augmentation d'un taux variable. On parle pas de taux fixe, c'est un taux variable. Mais les gens me disent, « Ah, moi, je suis intelligent. Je vais me négocier un taux fixe. » Attendez une minute. Si vous négociez un taux fixe 5 ans présentement, vous payez une prime de 44 points de base, donc presque l'augmentation de prévu sur la prochaine année, déjà en partant, pour avoir l'assurance que votre taux va être gelé pour 5 ans. Donc, il y a un coût à ça, hein, de geler un taux fixe. Il y a tout le temps un espèce de coût, dépendant de la courbe forward, mais quand même, on se retrouve ici avec des taux quand même importants et qui a un prix à payer pour prendre l'assurance. Et là, la question est, sur quoi ça a une influence? Ben, sur nos marges de crédit. Ça a de l'influence sur nos prêts personnels, ça a de l'influence sur la marge de crédit hypothécaire, sur le prêt hypothécaire variable, et éventuellement tout sera à la hausse. Donc, faut juste se préparer d'ici les prochaines années à avoir une espèce de petit coup d'intérêt. Hein? Réapprendre à ce que ça veut dire payer de l'intérêt.
Sur quelque chose, et c'est pas gratis.
Non, il y a rien de gratis.
Faut savoir, parce que c'est drôle que tu parles de ça aujourd'hui, parce qu'en plus, il y a une annonce qui devrait être faite aujourd'hui. On pense que ça va peut-être avoir un lien avec ton prochain sujet. Votre emploi est-il menacé par l'intelligence artificielle?
Oui, l'humain a depuis longtemps peur, hein, dans les films de science-fiction, de la robotisation qui existe déjà dans les usines, par exemple, de fabrication. Mais là, on parle d'intelligence artificielle, et puis, il y a un gars en Chine qui dit, écoutez, nos emplois sont menacés et il y en a qui sont plus que d'autres. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ben, disons qu'en grossièrement, c'est dès que la machine peut apprendre ou un logiciel peut apprendre à remplacer l'intelligence humaine. Donc, on cumule des données, on change des décisions, on change de mouvement. Donc, la machine s'adapte à ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui pourrait être affecté? Ben, il y a un auteur chinois qui s'appelle Keifeng Li, auteur du livre Superpowers China, Silicon Valley and the New World Order, il avertit le monde, il dit, écoutez, d'ici les 15 prochaines années, il y aura beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Et il parle des emplois précis. Par exemple, il dit, si vous travaillez en télémarketing,
ouais,
en support aux consommateurs, les travailleurs d'entrepôt, les commis et les employés opérationnels, les opérateurs téléphoniques, évidemment, les caissiers, les travailleurs dans les fast-food, les plongeurs, les inspecteurs de lignes d'assemblage, les gens qui font du courrier, tout ça pourra être éventuellement réduit ou remplacé par des machines. Et il dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger contre ça? Faites des emplois qui impliquent des relations humaines. Donc, réorientez-vous maintenant ou faites d'autres types d'emplois. Par exemple, la machine ne peut pas être ton psychologue. Tu sais, mettons, moi, je suis un humain, j'ai des problèmes, l'empathie de l'humain, la machine ne pourra pas me le donner. L'animateur radio, si c'est un robot, ben on va juste pas l'écouter, tu comprends? Le travailleur social, l'infirmière, tu sais, la compassion ne peut pas, par un humain, être perçue de la même façon lorsque c'est une machine qui fait preuve de compassion.
T'sais, un comptable, un chercheur, lui, peut-il être remplacé par une machine?
Le comptable, il y a des parties qui sont déjà remplacées par des machines. Par exemple, on fait des analyses d'écriture comptable. Oui. Avant, on faisait ça ici à Montréal. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que des fois, on envoie ça même à l'étranger en sous-traitance, mais la machine, maintenant, peut remplacer des analyses, peut remplacer des calculs qui étaient faits à la main avant, comme n'importe quoi. Et éventuellement, on va pouvoir faire des certains processus, effectivement, que le comptable est remplacé. Dans le fantasme du comptable, là, tu payes un bouton, les impôts, les états financiers se font tout seuls. Mais ça, c'est le fantasme. T'sais, mais il y a d'autres facteurs aussi. T'sais, prends par exemple l'électricien.
Oui.
T'sais, il se rend dans une vieille maison. L'électricien pourra pas être remplacé par une machine de la même façon que dans un fast-food où on fait des boulettes parce que chaque maison est différente. Faut que t'observes, non. Faut que t'analyses. Puis ça vaut-tu la peine d'investir pour le rendement?
T'as raison. Oui. Puis une des choses qui va être aussi, parce qu'il y a des technologies qui existent déjà, puis ça fait longtemps qu'on le dit pour des emplois qui sont plus difficiles. On parlait dans l'hôtellerie, entre autres, pour tout ce qui était rangement de la draperie, poser des choses comme celle-là, il y a des machines. Mais le problème qu'on note aussi, c'est que c'est pas que la technologie n'existe pas, mais là, c'est le coût de rentabilité pour l'exploitant de dire, OK, mettons que j'ai 3 personnes qui font ça, je les paye au salaire minimum, versus acheter cette machine-là qui est relativement... Et souvent, le problème, c'est qu'elles sont pas polyvalentes, elles font une tâche particulière. Puis c'est là aussi.
Ça rentre-t-il? Faut t'entretiens ça, cette machine-là?
Exactement. Le coût-bénéfice, là.
C'est la valeur actuelle nette. Donc, tu regardes ton investissement versus ce que ça rapporte.
Oui.
Et des fois, t'as raison, ça fonctionne pas. Tu sais, c'est comme le barista, par exemple. Mon latte pourrait être fait par une machine. Il y a déjà des places qui le font. Il y a des places qui font la machine, fait ton latte. Mais qu'est-ce que t'achètes quand t'achètes un latte aussi? T'achètes le mouvement, t'achètes la relation humaine, t'achètes le bonjour, t'achètes la chaleur. Et ça, ben, ça se remplacera jamais par une machine.
Donc, Pierre-Yves McSween nous fait croire qu'il paye son café 8$.
Non, mais je l'ai quand même payé 4,75 hier, puis j'ai trouvé ça cher. Un peu au coin de la rue, je l'ai dit à la personne. J'ai dit, mon latte est vraiment cher. En plus, il a augmenté le prix. Vraiment, j'étais déçu. Je dis, va vraiment recommencer à le faire chez nous.
Merci, Pierre-Yves. Salut. À demain, 7h25.